Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui vous rappellera rapidement que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans depuis maintenant un sacré moment. Et je vous rappellerai aussi, ce que je ne fais pas à chaque émission, ce serait un peu fastidieux, que notre générique est bien évidemment une musique de film, en l'espèce celle d'un film de Blake Edwards tourné quelque part entre 1961 et 1962, heureuse année. Je ne vous dis que ça, un petit bijou intitulé Breakfast at Tiffany's in English, diamant sur canapé si vous cherchez absolument à le trouver en DVD version française avec Audrey Byrne et George Pepper dans les rôles principaux et Henry Mancini à la musique et évidemment cette chanson Moon River a connu un succès absolument international et rapporta, si je me souviens bien, un Oscar au susdit et regretté Henry Mancini. Ce jour, eh bien, ce sont des réalisateurs bien vivants que nous allons musicalement évoquer, puisque nous allons consacrer cette émission à la carrière de Joel et Ethan Coen, les frères Coen. Alors, il paraît que l'un est plutôt cinéaste et l'autre plutôt producteur, mais tous les deux sont souvent scénaristes et ils sont indissociables dans tous leurs films, et cela depuis leur début. Donc, on a tendance à les associer sans les dissocier, en les appelant même parfois leurs réalisateurs à deux têtes. Joel est venu le premier, le 29 novembre 1954, suivi ensuite par Ethan, le 21 septembre 1957, quelque part dans le Minnesota, dans la proche banlieue de Minneapolis. Bien peu de choses sur leur enfance, leur adolescence et tout ce genre de choses dans ma petite fiche, mais tant mieux, diront certains esprits chagrins, ça nous permettra de passer plus rapidement au film et aux musiques. Alors, je dois m'en excuser aussi, peut-être qu'un jour nous ferons une émission spéciale Carter Burwell, puisque Carter Burwell est le compositeur attitré des musiques de films de Joel et Ethan Coen, mais les susdits emploient dans bon nombre de leurs films, pratiquement dans tous en fait, des chansons. Et ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien pour changer un peu, ce sont des chansons, ou en tout cas des morceaux musicaux que nous allons entendre et pas les partitions de Carter Burwell. Mais un jour, promis, nous ferons une émission sur la collaboration entre ces trois-là, ou alors peut-être même uniquement sur Carter Burwell, compositeur intéressant et relativement prolifique. Ceci étant dit, toutes ces précautions et arguties étant prises, eh bien, on va écouter justement un premier extrait de la bande originale du premier film tourné par les frères Coen, un film sorti en 1983 et qui rencontra un grand succès critique et attira d'emblée l'attention sur les frères Coen. Alors à l'époque, seul Joel avait signé la réalisation, mais c'était Joel et Ethan qui avaient signé le scénario. Il y avait comme directeur de la photographie un certain Barry Sonnenfeld, qui devint par la suite un réalisateur multicoté. On lui doit notamment les deux épisodes de la famille Adams, plutôt bienvenue. La musique, elle était signée de Carter Burwell. Je vous dirai peut-être quelques mots sur le film après. Mais on va écouter un extrait de la bande originale. Alors, c'est une chanson de Maria Luisa Bucchino, qui m'excusera de ne pas la connaître, mais promis, je me rattraperai un jour. Blood Simple, ça s'appelait en anglais dans 24 notes secondes.
Anaí, las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, indiecita fea, de la voz tan dulce como el aguay. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran sus fueros en la flor rubí. Defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera con la muerte, ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera. Y en tanto las llamas te estaban quemando, en roja corola se fue transformando. La noche piadosa cubrió tu dolor, y el alba asombrada miró tu martirio hecho ceibo en flor. Anaí, Anaí.
Un extrait donc de la bande originale de Blood Simple, 100%, un film des frères Cohen, Joel et Ethan Cohen. Alors vous l'aurez sans doute deviné, le film se passait quelque part entre le Texas et le Mexique. Une histoire bien sanglante. D'ailleurs, le slogan du film, je m'en souviens encore, et oui, c'était « Tuer quelqu'un est très dur, très douloureux et très très long ». En fait, ce n'était pas de Joel et Ethan Cohen, mais c'est une phrase d'Alfred Hitchcock qui illustrait une scène fameuse du rideau déchiré où l'on voyait, je ne sais plus qui, je l'avoue, essayer de tuer un monsieur dans des circonstances indéterminées, pardon de cette imprécision, mais c'était surtout la précision visuelle qui était frappante. Il lui mettait la tête dans le four, etc. C'était horrible. Et dans 100%, qui mérite bien son titre, j'ai oublié de vous préciser que c'était 100 S-A-N-G pour 100 S-A-N-G, mais vous l'auriez sans doute deviné. C'était à l'époque où on traduisait encore en français, avec quelques efforts d'imagination, les titres anglais. Ce temps-là est bien derrière nous. Mon brave monsieur, eh bien, dans 100%, alias Blood Simple in English, c'était difficile à traduire, Blood Simple en français, eh bien, on voyait un personnage contraint, c'est la petite fiche qui le dit, d'enterrer vivant un autre personnage en l'achevant péniblement à coups de pelle. Eh bien, je peux vous dire qu'à côté Scorsese, c'était presque du Barbara Cartland. Bref, c'était une scène assez dure pour un film qui n'était pas moins, mais un film qui dénotait une mise en scène absolument magnifique et magistrale, avec des contre-plongées tout à fait étonnantes. Et je dirais, au-delà du classicisme de l'histoire, eh bien, on sentait vraiment la patte de deux réalisateurs, dirons-nous. Deux réalisateurs appelés à un grand destin qui ne manqua pas de se concrétiser, comme l'on sait par la suite. Notons aussi que dans ce film, on voyait pour la première fois à l'écran Frances McDormand, qu'on revit beaucoup par la suite, et qui par ailleurs, et depuis cette époque-là, c'est bien rare à Hollywood pour le mentionner, eh bien, est mariée à Joel Cohen. C'est pourquoi d'ailleurs on la voit assez souvent dans les films des frères Cohen, mais on ne s'en plaindra pas. On préfère la voir là que dans Transformers, où elle l'est aussi pourtant. Ensuite, eh bien, on vit en 1987 une comédie, toujours des frères Cohen bien sûr, Arizona Junior, avec, si je me souviens bien, mais sans garantie, Nicolas Cage dans l'un des rôles principaux. On vit en 1991 la première consécration publique et critique des susdits, puisqu'ils obtinrent cette année-là la Palme d'Or et le prix de la mise en scène, excusez du peu, au Festival de Cannes pour Barton Fink, qui racontait, je dirais, une histoire qui basculait à un moment dans le fantastique, celle d'un scénariste, écrivain génial, contraint de faire des scénarios un peu stupides à Hollywood, exploité donc par le système hollywoodien. Beaucoup virent d'ailleurs dans le personnage principal une sorte d'incarnation de William Faulkner, auteur américain réputé, s'il en est, prix Nobel de littérature, et contraint lui aussi d'exécuter quelques basses œuvres dans le cinéma hollywoodien des années 50-60 pour récolter un peu d'argent. Barton Fink était un très grand film, il faut le reconnaître, mais j'ai choisi comme ça, parce que là on va privilégier la musique, un extrait du film suivant des frères Cohen, Le Grand Saut, là encore quelque chose de tout à fait différent, un film tourné en 1994 dans les rôles principaux duquel on retrouvait Tim Robbins, Paul Newman, deux générations différentes d'acteurs, et la délicieuse Jennifer Jason Leigh. Ça s'appelait Le Grand Saut en français, et alors je ne sais trop pourquoi, je l'ai oublié en tout cas, The Hudsucker Proxy. Ça m'a l'air un peu cochon, ce truc-là. En anglais, un film qui se passait quelque part dans les années 60. Les frères Cohen aiment bien faire des films, on va dire historiques, en tout cas, qui se passent ailleurs qu'à notre époque. Un film qui fut un insuccès commercial à peu près total. Il faut dire que l'esprit un peu ironique, satirique, dut beaucoup déconcerter les spectateurs américains, en tout cas, il dut aussi beaucoup déconcerter les producteurs qui avaient investi la somme conséquente, j'imagine, à l'époque de 40 millions de dollars et qui en récoltèrent en première exclusivité à peu près 3. Il y avait de quoi être déconcerté. Allez, on va écouter Duke Ellington et John Coltrane. Excusez du peu. Ça s'appelle, je ne sais plus trop comment, mais je vous le redirai après, c'est promis, un extrait de la bande originale du Grand Saut des frères Cohen dans 24 notes secondes. Ça s'appelait, bien sûr, diront les amateurs de jazz, In a Sentimental Mood, interprété par John Coltrane et Duke Ellington, un extrait de la bande originale du Grand Saut, The Hudsucker Proxy, un film des frères Cohen, nos héros du jour, tourné en 1994 et qui fut un très très gros échec commercial, il faut bien l'avouer. Et comme souvent, eh bien, dans Le milieu hollywoodien réussit toujours à rebondir, puisqu'en 1996, les frères Coen renouèrent avec le succès avec Fargo, un film qui, lui, n'avait pas dû coûter autant d'argent que Le Grand Saut, puisqu'il se passait quelque part dans la neige. Ça ne coûte pas bien cher, mais c'était une histoire absolument machiavélique, un enchaînement de circonstances auxquelles vous assistiez à la fois impuissant, dégoûté et jouissif, extrêmement jouissif, quelque chose de 100% dans la neige, je dirais. Un film qui leur permit d'obtenir le prix de la mise en scène, à nouveau ô combien mérité, ô combien mérité au Festival de Cannes. Et ensuite, eh bien, une émission consacrée aux frères Coen ne pouvait pas ne pas évoquer musicalement ce qui reste sans doute, pour l'instant en tout cas, les frères n'ont pas dit leur dernier mot, leur film culte, avec un personnage culte, le Dude, et oui, bien sûr, le Duc en français, mais ça ne veut rien dire, The Dude, interprété par Jeff Bridges, mais ai-je besoin de le souligner dans The Big Lebowski, mais ai-je besoin de le dire, un film tourné en 1998, alors culte, 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 que dire de plus, tout est culte dans ce film, aux côtés, si l'on peut dire, plutôt en dessous, juste en dessous de Jeff Bridges, eh bien, on trouvait quelques-uns des acteurs favoris des frères Coen, notamment John Goodman, qu'on avait vu dans Barton Fink, John Turturro, qu'on avait lui aussi vu dans Barton Fink, il y avait même Julianne Moore, qui jouait le rôle de Mo, de Lebowski. Bref, il faudrait consacrer une émission entière à The Big Lebowski. Pour tout vous dire, dans Wikipédia, il y a 15 pages consacrées à ce film, puisque parfois, il m'arrive de me renseigner aussi sur Wikipédia. Tout est culte dans ce film, y compris donc la bande originale de laquelle nous allons écouter un extrait. Et il s'agit de Debbie Reynolds, culte, 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 dans 24 secondes.
I hear the cottonwoods whispering above. Tammy, Tammy, Tammy's in love. The old hooty owl hooty hoos to the dove. Tammy, Tammy, Tammy's in love. Does my lover feel what I feel when he comes near? My heart beats so joyfully. You'd think that he could hear. Wish I knew if he knew what I'm dreaming of. Tammy, Tammy, Tammy. Thank you.
que c'est beau, mon Dieu, que c'est beau, Debbie Reynolds, Tammy, un extrait de la bande originale de Big Lebowski, Debbie Reynolds, qui s'offre de ma part, est toujours parmi nous. On t'aime, Debbie, pour un film cultissime qui ferait presque, je dis bien presque, aimer le bowling, à ceux qui détestent ça. Est vraiment un chef-d'œuvre absolu, un des films les plus drôles de tous les temps. Jeff Bridges, absolument impérial, l'homme eut d'ailleurs du mal à s'en remettre, parce que bien souvent, après, on dit « Ah oui, c'est vous !» Oui, ça, c'est le truc de base. Mais il réussit quand même à rebondir, y compris d'ailleurs dans certains des films des frères Cohen auxquels nous consacrons cette émission de ce jour, puisque c'était eux les réalisateurs de ce film. On a même évoqué, je crois, sinon un remake, du moins une suite. Heureusement, la chose, à ma connaissance, ne s'est pas concrétisée. Il vaut mieux ne pas. Je ne vois pas comment on pourrait faire autre chose que ce chef-d'œuvre absolu de non-sens et d'humour qui permit donc, là encore, après le grand succès de Fargo, aux frères Cohen de retrouver le succès. Et alors, si j'en bafouille, c'est qu'après, eh bien, ils changèrent à nouveau complètement de genre. Je ne pense pas qu'il y ait deux films des frères Cohen qui se ressemblent, puisque en 2000, on vit O Brother avec notamment George Clooney, une histoire qui se passait quelque part à la dépression, pendant la dépression, juste après la crise de 29. En 2001, on vit The Barber, tourné en noir et blanc. Une histoire un peu sombre et, à mon avis, un peu apathique. En 2003, on vit, ou pas d'ailleurs, Intolérable cruauté, une comédie plutôt clinquante et pas trop bienvenue. Et en 2004, si je m'attarde, c'est qu'on va en écouter un petit extrait. On vit Tom Hanks lui-même dans un film des frères Cohen. Alors, c'était peut-être pas, je dirais, l'acteur qu'on aurait imaginé dans l'univers des frères Cohen, puisque même si leurs films sont très différents, eh bien, leur univers, lui, reste cinématographiquement très cohérent. Tom Hanks, qui en 2004, eh bien, fut le héros de Lady Killers ou Les Tueurs de Dames, un film pour les cinéphiles qui était un remake d'un fameux film britannique d'Alexander McKendrick sorti en 1955 avec Alec Guinness, si je me souviens bien, dans le rôle principal, les années 50, la grande époque de la comédie britannique. Un film donc qui essayait de reprendre la même histoire quelque part dans le Mississippi, celle de dames indignes qui tuent des personnes et avec la complicité impuissante Tom Hanks qui joue le professeur Goldsworth Higginson d'Or 3. Ça veut déjà tout dire. Ma foi, ce n'était peut-être pas le meilleur film des frères Cohen et peut-être pas un remake supérieur à son original, mais on y écoutait, alors je crois que c'est The Soul Stirrers, moi j'aurais dit The Soul Sisters, mais on y écoutait donc The Soul Stirrers dire et chanter comme Let Us Go Back to God. Tiens, ça, c'en est une bonne idée dans 24 notes secondes. The earth is in a blaze. The world is in a maze. The way of life today is strange and odd. What happened across the sea may come to you and me. Oh, come, let us go back to God. Go back to God.
Oh, come on.
Let's go back to God.
Let us go back.
Let's go back to God.
Come on.
Let's go back to God.
Let us go,
let's go back,
back
to God.
Out of the way.
Let's go back to God.
Without my Lord.
Let's go back to God.
Mighty hard.
Let's go back to God.
Oh yeah.
Let's go back to God.
That
oh,
I know death has marked a path.
Let's go back,
yes,
to God.
Death is marked.
Let's go back to God.
A path we
let's
trod.
Go back to God.
Come on.
Let's go back,
yes,
to God.
Let us go,
go back.
Back
to God.
Go back to God.
Let's go back to God.
There's trouble in the air. destruction is everywhere, and men are being trapped beneath the soil, and nations great and small have now begun to fall. Oh, come, let us go back to God, go back to God.
Let us go back to God, ma foi, c'est comme vous le sentez, un extrait de la bande originale de Lady Killers, un film des frères Cohen tourné en 2004. Depuis, eh bien, les Susdits ont continué leur carrière et ont continué à nous dérouter par des films extrêmement différents. On ne peut pas tout citer, mais on ne peut pas ne pas évoquer No Country for Old Man. En québécois, c'était Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Là, c'est quand même mieux en anglais. No Country for Old Man, qui leur obtint les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur, des meilleurs réalisateurs, du meilleur scénario adapté. Bref, un triomphe. On vit aussi en 2010 Too Great, un western plutôt bienvenu, remake d'un autre western avec John Wayne. Et puis en 2013, et on va se quitter avec ça, on vit une petite merveille avec Oscar Isaac, qu'on a revu depuis bondissant dans Star Wars 7. Moi, j'avoue que je le préfère dans Inside Llewyn Davis, consacré à la vie d'un chanteur de folk un peu malchanceux, une petite merveille dans laquelle on aime se lever. Et sur ces quelques notes qu'on va se quitter, et je ne vais pas parler pendant cette musique-là, donc je vous dis dès maintenant, au revoir, à bientôt, see you and bye-bye.
Old MacDonald had a farm. Held this farm and had some chicken. There was a chick here and a chick there. They were doing the chicken each and everywhere. Whoa,
oh, MacDonald.
Oh, MacDonald.
Oh, MacDonald.
Oh, what a farm.
Oh, MacDonald.
Oh, yeah.
Oh, MacDonald.
Oh, MacDonald had a farm. Farm, it had some ducks. Yeah. It was a duck here and a duck there. There were a duck and one another each and everywhere. Whoa.
Oh, MacDonald.
Oh, MacDonald.
Oh, MacDonald.
Oh, what fun. All over the place, you can smell them in the air. Whoa.